11 octobre, 17h30 précisément. Bienvenue à l'aérospatiale en compagnie de Julie Gagné à l'animation et de Jacques Gignac à la mise en onde. Cette semaine, une heure bien chargée, comme à chaque semaine, mais je le dis toujours parce que ça file, on en a des choses à dire. Il se passe beaucoup de choses dans le monde des arts visuels. On rencontre aujourd'hui Sébastien Hudon, qui ne sera pas là à titre de commissaire d'exposition, mais plutôt comme membre de la Chambre Blanche, de la Chambre Blanche, pour nous parler de l'exposition Invisible Places, qui débutera au 13 novembre, exposition de Claudio Bueno. Également, Anouk Desloges nous fera sa première chronique de la saison au sujet de Portrait égaré de Maude Poisson, qui est présenté dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres. Un peu plus tard dans l'émission, on rencontre Martin Bureau pour discuter de la tant attendue exposition From China with Love. Également, Raymond Poirier nous fait la revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Tu nous tends une carotte?
En fait, on parle beaucoup dans l'actualité du mouvement Occupy Wall Street. Les manifestants de ce mouvement-là ciblent aussi le marché de l'art.
Oh, dossier à suivre dans quelques minutes. Également, Simon Roy nous fait sa chronique Art Audio. Bonjour Simon.
Salut.
Ça va bien?
Très bien, toi?
Oui, très bien. D'ailleurs, j'ai hâte que tu me nommes le nom de l'album et des interprètes qu'on va écouter aujourd'hui, parce que je les vois écrits, puis c'est un peu confus.
Ben oui, hein, c'est un album, voyons du nom, de Ten Co-Live. C'est deux entités qui ont fait ça, c'est Ten Connect et Mixolive, qui s'affrontent un peu pour cet album-là. C'est deux... Ten Connect, c'est deux Français de la région du Rhône. Puis Mixolive aussi est français, mais j'en ai aucune idée de quelle région particulièrement. Puis, comme tu as vu, le nom des pièces, c'est assez illisible, merci. C'est en fait les codes hexadécimales de couleurs. Donc, on se sert de ces codes-là pour... quand on programme une page en HTML, ça donne... on se sert de ces codes-là. Je t'ai décodé ça avec les vrais noms de couleurs, ça va être un petit peu plus facile.
Ah, merci Simon, parce que je me voyais mal dire dièse FFL017.
Ben oui, c'est ça, j'ai comme allumé aujourd'hui que c'était des codes de couleurs, je ne me voyais pas prononcer ces titres-là. Donc, les deux groupes, rapidement, Ten Connect, ils se spécialisent dans le circuit bending. Ça, c'est circuit bending, c'est de jouer avec des machines qui font du son, mais les trafiquer pour faire du son qui sont pas supposés de faire. Donc, on peut prendre, mettons, des jouets électroniques qui font du bruit. On essaie de toucher au circuit, mettre des fils court-circuités, puis tout ça produit des sons vraiment inusités. Donc, Ten Connect se spécialise là-dedans. Ils font aussi des manipulations sonores. Et il y a Mixolive aussi. Lui, il fait des loops avec des guitares. Donc, c'est un genre de la rencontre des deux styles. Donc, on va entendre quatre pièces ce soir. On va débuter avec la pièce rouge. Ça va être par Olive. Ensuite de ça, un peu plus tard en émission, ça va être la pièce gris. Et on finit avec la pièce rose. Ça, c'est tout ça, c'est publié sur Clinical Archives. C'est une excellente ressource de musique. Ça va être expérimental, mais ils ont vraiment beaucoup de trucs assez variés. Ils ont plus de 472 albums. Puis c'est tout en téléchargement gratuit. Donc, c'est ça, c'est une étiquette qui est russe, mais il y a des artistes à peu près partout sur la planète. Donc, Clinical Archive, si vous cherchez de la musique qui sort de l'ordinaire, il faut aller faire un tour de leur côté. Donc, c'est ça, on va débuter avec la pièce rouge.
Excellent. Puis, on t'entend dimanche soir avec Web Music.
Oui, toujours à partir de 20h.
Bien, merci, Simon.
Bien, merci beaucoup.
On s'en va en pause audio de maintenant. Thank you. On vient d'entendre la pièce rouge tirée de l'album Ten Colère, exactement. Toujours à l'aérospatiale, c'était une suggestion de Simon Roy. Si jamais vous voulez aller écouter ou avoir les liens pour écouter les pièces qu'on écoute à l'émission ou encore écouter l'émission en balado-diffusion, vous pouvez aller sur notre site internet, l'aérospatiale.wordpress.com. Vous pouvez également nous écrire des commentaires, des suggestions, faire toutes sortes de choses sur ce merveilleux site qui a été lancé quoi, au mois de septembre. Et là, maintenant, on se tourne vers l'actualité en art visuel. Raymond Poirier, tu nous fais ta revue de presse?
Oui, elle fait toujours cinq sujets en à peu près 5 minutes.
Et le mot à peu près est très
ça fera plus en plus d'importance. Alors, dans le fond, on commence à Québec, Musée national des beaux-arts, qui a lancé une petite mise à jour tout récemment autour de son projet d'agrandissement. Alors, on dit qu'on vient de se lancer dans une nouvelle phase de développement avec les travaux d'excavation qui visent en fait à préparer le site, qui ont commencé, qui se déroulent également comme prévu. On nous dit que ça va se poursuivre jusqu'en décembre prochain. Avec au printemps 2012 officiellement donc les travaux de construction du nouveau pavillon du musée qui vont débuter, ouverture bien entendu prévue en 2014. Alors ben, pour l'instant le calendrier est respecté. Et d'ailleurs, si on veut être tenu au courant de la progression de ces travaux-là, le musée a mis en ligne un site www.plusdespacepourlart.ca. Le lien est bien entendu aussi sur le blog de l'aérospatiale. Donc, pour voir un peu comment ça va progresser en cours de route.
Oui, un dossier qui fait jaser aussi. Là, c'est certain que ça nous intéresse de le suivre.
Ben oui, exactement. Et puisqu'on parle de musée, on fait le saut vers Montréal, tiens, puisque la semaine dernière, il y a eu le congrès de la Société des musées du Québec. Oui. On en avait glissé un mot il y a de ça quelques semaines, les musées qui criaient famine, qui disaient, regardez, on a des problèmes de financement. Alors évidemment, c'est devenu un thème assez important lors de cette rencontre-là. Situation qui est quand même comparable à celle des grands pays européens pour nos musées. On parle d'à peu près 12 millions de visiteurs par année globalement. Donc une affluence très fiable, très viable. Ils sont jugés très performants d'ailleurs, mais malgré cela, donc on a des difficultés financières. On a expliqué qu'il y avait 38% du financement des musées qui provenait de revenus autonomes, donc la billetterie et autres, du financement privé également. Le financement public compte en moyenne pour 30%. Alors il y a un 30% à aller chercher qui est additionnel, donc pour les ressources humaines, programmation, des collections, pour la recherche également. Et donc, ce qui fait que, de manière générale, le milieu muséal, lors de cette rencontre-là, s'est mis en mode solution. Ce qu'on a demandé, notamment, c'est une bonification des crédits, une hausse du financement récurrent pour les musées, mais bien entendu, on reconnaît qu'on ne peut pas non plus attendre après un financement accru de l'État, qu'il faut trouver d'autres perspectives de financement. Et les musées, par contre, disent, regardez, on est bien prêts, nous, à faire plus d'efforts auprès du privé pour aller chercher cet argent-là. Mais il faut avoir un appui de la part des gouvernements, que ce soit par les crédits d'impôt ou autres, pour encourager le privé aussi à faire ce pas-là pour que lui trouve un avantage à devenir mécène pour les différentes collections. Donc, il y a cet élément-là. Sinon, on demande d'autres mesures, là, justement, pour donner un coup de pouce au musée, mais par l'établissement de lois d'accompagnement, notamment auprès des municipalités. On dit que les villes font beaucoup d'efforts, mais on se demande s'ils sont suffisamment bien encadrés au niveau législatif pour que leurs efforts portent d'autant plus fruits. Alors, on garde ça dans notre pile de dossiers à suivre, en attendant de voir, justement, quelles seraient les suites de la part du ministère de la Culture et des Communications.
Espérons qu'il y en aura.
Eh oui, espérons-le. On retourne à Montréal, on reste à Montréal, en fait. Je voulais le mentionner au passage, la Triennale québécoise 2011 qui s'est ouverte et qui se poursuit au cours des prochaines semaines. Triennale québécoise qui est quand même un des plus gros événements artistiques en province. Là, on parle quand même d'un budget d'un million de dollars. C'est un projet qui est mis de l'avant par le Musée d'art contemporain de Montréal. Donc, c'est présenté jusqu'au 3 janvier 2012. C'est une vitrine, en fait, de la création artistique du Québec. Donc, de manière générale, en fait, on a envoyé des commissaires, donc Leslie Johnstone, Marc Langteau, François Letourneux et Louise Simard, ainsi que Marie Fraser, dans les régions artistiquement les plus fertiles du Québec. Et de ce voyage-là, eux ont sélectionné une cinquantaine d'artistes, ce qui est une progression d'ailleurs, on en avait 38 à la dernière édition, donc on avance en nombre. On parle de peintres, de photographes, de vidéastes, de performeurs, des artistes d'installation, et donc on leur donne cette vitrine de création jusqu'au janvier prochain. Alors, si on passe par Montréal, ça peut être intéressant.
Ben oui, c'est intéressant d'aller chercher les artistes des régions aussi, parce que souvent, on dit, bon, Québec, Montréal, il y a quelques grandes villes comme ça, mais il y a plein de petits endroits qui sont réputés pour la vitalité des arts, dont on ne parle pas nécessairement dans le monde de l'art contemporain.
Et effectivement, il y aura aussi des artistes de Québec qui seront de passage à cet événement, que ce soit en exposition ou également avec une programmation de spectacles qui ne sont pas inintéressants, notamment Martin Tétrault, l'orchestre d'homme orchestre et plusieurs autres. Alors, à surveiller, mais l'article est aussi sur le blog. On référence le blog aujourd'hui. Sinon, rapidement, deux petites dernières. Bonne nouvelle pour le street art, que le vent en poupe, pour le marché de l'art du moins. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'en euros, on parle de 320 000 $ de vente à Lyon dans une récente vente liée au street art. Donc, c'est une progression extrêmement intéressante. C'est des artistes, pour la plupart, qui demeurent encore inconnus. Mais on sent que les collectionneurs ont un désir d'investir dans ce type d'art-là en prévoyant justement une hausse de la valeur des œuvres liées à ce domaine.
On sauve donc une nouvelle pratique.
Oui. Et en terminant, je l'avais lancé en début d'émission, on parle beaucoup d'Occupy Wall Street. Eh bien, il y a également une question autour du monde de l'art de la part de ce mouvement-là. D'ailleurs, même un compte Twitter qui a été lancé qui s'appelle Occupy Art World. Autour de ça, on se questionne en fait face aux profits effarants de certains organismes mis au marché de l'art. On pense notamment à Sotheby's qui a fait à peu près 680 millions de dollars l'année dernière. Son président directeur général, William Rupchurch, qui a augmenté son salaire de manière assez imposante également. Et donc, eux se questionnent à savoir est-ce que c'est décent dans un contexte économique qui est difficile pour bien des gens, que ce marché-là qui génère autant d'argent, autant de profits, est-ce que ce marché-là devrait trouver des manières de mieux s'impliquer, que ce soit dans le domaine artistique auprès des artistes moins fortunés, que ce soit socialement également. Il faut dire que Sotheby's est ciblé tout particulièrement parce que eux avaient mis leurs employés en locate il y a ça quelque temps, en refusant de leur donner des augmentations de salaire. Et ce que les gens du mouvement Occupy Wall Street disent, c'est, regardez, si vous avez fait 680 millions de dollars de profit, vous aurez eu les moyens d'augmenter minimalement les conditions de travail de vos employés, voire même de faire plus. Pas de réponse pour l'instant de Sotheby's.
Donc, un autre dossier à suivre.
Eh oui.
Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
On a l'occasion de t'écouter aussi vendredi prochain à 17h30 pour ton émission sur la BD.
Oui, BD, illustration et animation.
Ben voilà, on s'en va en pause audio. On écoute Olive ce coup-ci et au retour, on discute avec Martin Bureau. On vient d'entendre la pièce Olive qui est tirée de l'album Ten Cool Live de Disconnect et Mixolive. Et là, on se transpose dans un autre univers complètement. On s'en va vers la peinture, la galerie Lacerte avec Martin Bureau. Bonjour.
Bonjour.
En ce moment, tu exposes à la galerie Lacerte From China with Love. C'est une série documentaire, ben, pas une série documentaire, mais une série que tu as fait à la suite d'un voyage en Chine.
Tout à fait, mais le fait de dire série documentaire est peut-être approprié même. Effectivement, je me suis retrouvé en Chine en résidence d'artiste, alors que j'allais là-bas pour en tant que directeur photo pour un projet qui s'appelait La Chorale de Jean-François Côté. Et puis, comme on avait beaucoup de temps quand même pour nous là-bas, on avait pris prétexte de ça pour en prendre du temps aussi.
Ben oui.
On explorait une partie du pays, et puis on a cumulé des images, on a fait des images. Et puis, ça a été une superbe expérience culturelle qui m'a fasciné puis qui m'a beaucoup renvoyé dans notre rapport qu'on a, nous, à la Chine, en fait, à travers la notion du « made in China », par exemple.
Ben oui, parce que la Chine, on le sait, là, c'est pas une information qui est nouvelle, le produit. Je sais pas quel pourcentage de nos objets de consommation. J'imagine que tu t'es retrouvé vraiment face à ça aussi, là, dans les villes du sud de la Chine et tout
oui,
ça.
Oui, tout à fait. On a visité une partie par exemple, de Shenzhen, qui est une zone économique spéciale. Donc, c'est des zones déréglementées où est-ce que les autorités chinoises établissent des partenariats avec les gouvernements étrangers, les compagnies plutôt que les gouvernements, afin de mettre en place des chaîne de production de tout acabit, du produit le plus cheap au produit le plus sophistiqué. Et puis, donc, c'est là vraiment qu'on constate cette espèce d'engrenage-là où on le voit de visu et puis juste à observer et puis à s'informer, à aller chercher l'information, à lire là-dessus. C'est devenu vraiment une mine d'informations incroyables. Et puis, il y a eu un désir à partir de là d'en créer une série de tableaux à travers tout ce qu'on avait cumulé comme information là-bas, en fait.
Puis c'est des tableaux, bon, c'est certain, il y a une critique de la Chine, mais je pense qu'au bout du compte, tu critiques surtout notre rapport à la consommation puis ses effets.
Oui, tout à fait. C'est effectivement pas une tentative de critique du régime chinois qui est beaucoup trop compliqué. Et puis, je voulais pas agir en usurpateur, moi, en arrivant là-bas, puis prétendre pendant un mois et demi sur les lieux, après ça, retourner chez moi, puis vraiment faire une critique, je trouve. C'est pas ce rôle-là, je pense pas, puis ça serait vraiment inapproprié. J'aime beaucoup plus opérer l'exercice dans l'autocritique, en fait, parce qu'il y a toujours... Dans les voyages que je peux faire et puis que à partir duquel je décide d'en faire une série, c'est beaucoup dans notre rapport à eux, dans l'autocritique. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup là que je me retrouve pertinent ou que je me sens plus pertinent parce que j'ai plus de connaissances d'où je viens, qu'est-ce que je représente comme occidental, comme québécois, pour pouvoir nous mettre face à l'autre, en fait.
Puis dans l'exposition, en fait, dans tes œuvres, cette critique-là, elle se fait quand même assez forte. Tu utilises pas mal de symboles, hein, des images quand même récurrentes qui témoignent de ça.
Mm-hmm. Oui, le cargo étant c'est comme un champ lexical où est-ce qu'il y aurait plein d'éléments qui racontent cette histoire-là, des icônes. Le cargo en étant un, la figure du dragon en tête de proue. En figure de proue, en serait une autre, effectivement, puis je les manipule, les racines, les grues, l'architecture, même la débandade, quelquefois des catastrophes reliées à ça, l'absurdité, même une anarchie dans ces catastrophes-là qui sont illogiques, comme de faire couler une chute d'un viaduc qui entraîne elle-même une grue démontée, et puis tout ça, c'est des choses impossibles, mais qui permettent de témoigner d'une espèce de fin envisagée, en fait.
D'une fin envisagée, ou encore, justement, de tous ces possibles que nous ne croyons pas possibles, finalement, mais qui peuvent mener à des... ma réflexion est un peu labyrinthique, mais qui peuvent mener à des choses dont on a... Bon, je recommence ma question. Des choses absurdes, mais qui peuvent amener à une réflexion sur ce qui entraîne ces choses-là. Par exemple, l'échangeur qui entraîne une chute d'eau. La Chine, on sait, c'est pas nécessairement des préoccupations environnementales ou qui sont vraiment mises de l'avant, par exemple.
Oui, c'est ça. C'est ça, mais ça vient croiser ça parce que la débandade environnementale fait partie du sujet aussi, et puis l'anarchie dans la construction démesurée fait partie du sujet aussi. Donc, il y a ça, il y a cet aspect-là qui pourrait être un point de vue plus critique de la Chine. Puis, je ne crois pas que ce soit d'être usurpateur que de le dire, de le voir, de constater ce développement-là frénétique, en fait, ces constructions-là immenses et infinies. Ça permet aussi de se projeter en avant, comme vous dites, dans le sens d'anticiper une espèce de fait envisagé. On voit tout ça, on dit ça peut pas être viable, ça peut pas être possible comme ça si on se met tous à vouloir consommer comme on le fait en Occident. Et puis c'est là le problème, de là le point de vue autocritique aussi. C'est forcément, on est forcément dans une dynamique anthropique de désintégration des systèmes, dans une accélération de la catastrophe environnementale ou de la catastrophe de la consommation. Donc, je pense que à ce niveau-là, le propos me semblait juste, en fait.
Puis là, je vais passer peut-être dans un autre ordre, en fait, parce que c'est sûr qu'on peut pas s'empêcher de remarquer le changement au niveau de la forme, la couleur qui est peut-être un peu moins présente et le dessin, en fait, qui prend de plus en plus de place dernièrement.
Oui, effectivement. C'est comme si la peinture arrivait de plus en plus en soustraction, j'en mets de moins en moins. Et puis, c'est un désir opéré de changer de manière, de changer, de se brasser dans ses habitudes. Et puis, dans le but de retrouver une ferveur, en fait. Et puis, j'ai volontairement provoqué ces changements-là en cherchant des pistes de représentation. Et puis, donc j'ai laissé émerger le dessin beaucoup. Et puis, comme le dessin émergeait beaucoup, mais il était hors de question d'après ça de vouloir recouvrir nécessairement toute la surface du dessin qui avait une qualité en soi avec la peinture comme je le faisais auparavant de manière opaque. Donc là, j'ai complètement changé ma manière de peindre finalement, et puis je suis vraiment heureux dans la mesure où après une quinzaine d'années de métier, je me retrouve dans l'atelier avec une ferveur initiale qui est vraiment plaisante à vivre, c'est-à-dire l'envie de chercher dans sa journée des nouvelles pistes, et puis de s'approprier une nouvelle façon de faire qui est fraîche, qui est neuve, et puis qui me rappelle mes jeunes années.
Mais oui, parce que quand même, renouveler son vocabulaire pictural comme ça, c'est sûr que ça doit amener justement à d'autres réflexions, à des nouvelles idées, globalement. Là.
Forcément, effectivement, ça amène le dessin, ce qui est intéressant dans mon cas, comme j'ai toujours peint en empattement avec beaucoup d'accidents et des spatules de manière assez brute, le dessin permet un petit peu de raffiner la représentation, et puis d'après ça, de choisir si j'interviens pour cacher des zones, modifier les zones en peinture. C'est comme si je donnais de l'extension dans le dialogue que j'avais avec mes tableaux, en n'étant pas seulement dans une relation de couvrir le tableau dans une méthode uniforme, alors que là, c'est comme si tout ça se complexifiait, était en même temps ouvert à d'autres possibilités.
Oui, puis il y a beaucoup de transparence aussi. Là, on voit quand même toutes les couches d'intervention, le dessin, après ça, les gouttes, hein, il y a beaucoup de gouttes. Après ça, la peinture, ça crée un dialogue, finalement, entre les différentes techniques à l'intérieur même du tableau.
Effectivement, à l'intérieur même du tableau. Et puis, contrairement peut-être à ce que j'ai pu faire pendant plusieurs années, juste en termes techniques, où est-ce que je travaillais la peinture de manière opaque, en construction opaque, là, je suis vraiment soudainement dans la logique inverse, en fait. Toujours, j'ajoute ce que j'ajoute en peinture est toujours là pour aller chercher la lumière dans le fond. Donc, je suis vraiment en transparence partout ou presque. Donc, voilà, c'est assez stimulant comme manière. Et puis, dans les derniers tableaux, ça finit presque plus de couleurs, et puis je me suis laissé aller dans une avenue presque en noir et blanc et en feuilles d'argent, par exemple.
Mais c'est intéressant, par exemple, parce que ça va justement avec, on parle de l'idée de la fin dans la série From China with Love. Puis là, c'est tout en noir, et ça accentue justement le côté sombre, le côté à la limite un peu apocalyptique de la chose, la vision.
Oui, c'est vrai. Puis ça va aussi chercher le côté, l'espèce de côté smog aussi, ou le côté ça vient appuyer le sujet en termes de densité de l'air. C'est pas un air coloré d'une couleur séduisante, c'est un air plutôt terne. Et j'essaie de faire en sorte en même temps qu'il y a quand même une lumière forte qui perce ça, qui entraîne l'image dans un équilibre visuel aussi.
Là. D'ailleurs, là, je change encore de sujet parce qu'il y a une autre chose qui m'a frappée. Habituellement, Martin Bureau, tu utilises des titres. Hein? On sent que les titres sont vraiment réfléchis pour chacune des œuvres. Ça nous aide à guider la lecture. Dans ce cas-ci, toutes les œuvres s'appellent « From China with Love ». Pourquoi?
Parce que je l'ai décidé comme ça dès le départ, en fait, à travers les trois ou quatre premiers tableaux de la série. Maintenant, j'en suis à 22 et puis je vais continuer de tous les formats, du plus petit au plus grand au géant. Et puis je vais continuer encore pendant quelques formats, je ne sais pas exactement quand, mais j'ai eu cette idée-là au départ d'étirer la série avec le même titre en les nommant 1, 2, 3, 4. Et puis je dois dire que je ne ferai plus jamais ça, en fait, parce que j'en suis à l'idée que chaque tableau, j'aurais voulu leur donner des sous-titres. Évidemment, parce que j'ai toujours aimer donner des titres et puis réfléchir les titres comme une piste de réflexion. Et puis là, je me suis astreint à ça. Ça fait deux fois que je le fais. J'avais fait une série précédente qui s'appelait Random. J'avais fait ça aussi. Et puis ce que ça amène aussi, c'est qu'on sait jamais c'est lequel le 17, on sait jamais c'est lequel le 13. Faut que j'aille voir dans mes dossiers. C'est une question pratique. Mais ça au niveau du sens, ça a peut-être enlevé un petit peu de couleur, mais je pense que dans les tableaux, tout ce sens-là est porté tout de même. Et je pense que je vais revenir à l'idée d'un titre unique pour chaque tableau.
Mais au moins, dans ce cas-là, ça montre vraiment l'idée que c'est une réflexion globale qui se parsème en fait dans chacun des tableaux.
Oui, aussi, parce que c'est vrai que je travaille mes séries vraiment de manière... c'est des thématiques cernées, en fait, qui c'est des groupes d'idées qui sont ensemble, et puis je décide d'un début, puis à un moment donné, j'ai le sentiment d'avoir fait le tour de la réflexion, puis j'y mets un terme, et puis ce qui me permet de transiger sur une autre réflexion, qui est toujours une suite, qui reporte des thèmes. Mais j'aime bien l'idée de cerner les séries comme on écrirait un essai, dans le sens qu'on en nous obligeant à amener une problématique et puis de tenter de conclure ou de projeter une conclusion, en fait.
Je reste encore sur l'idée du titre. Bon, à l'extérieur, c'est écrit en chinois. Je suis allée cette fin de semaine à la galerie La Serte. Est-ce que tu as eu des commentaires de gens qui venaient de la Chine? Est-ce que tu en as rencontré?
Oui, dès le premier soir au vernissage, il y avait quatre jeunes étudiantes chinoises qui étudiaient à Toronto, et puis en échange, et qui sont venues faire une fin de semaine à Québec. Et puis, ils sont rentrés l'après-midi, ils avaient lu, donc, From China with Love, et puis, ils s'étaient dit, comme l'après-midi, c'était pas ouvert pour le vernissage encore, ils se sont dit, on va revenir le soir. Puis, quand ils sont venus le soir, ils ont été choqués, puis ils sont venus me parler, en fait, de voir que c'était pas une image idyllique qui était projetée de la Chine, comme le titre le laissait entendre. Et puis, ils m'ont dit qu'ils pensaient pas qu'on avait cette vision-là de la Chine, mais je leur ai rappelé à quel point c'était pas tant une vision de la Chine qu'une vision de notre rapport à la Chine. Et puis, c'est intéressant parce que la discussion est allée dans le sens que eux, en tant que Chinoises, ne pouvaient pas voir ce type d'art-là critique dans leur pays, la Chine, étant donné le régime en place. Donc, c'est intéressant. Il y a tout le paradigme de consommation à la chinoise versus celui du totalitarisme politique. C'était vraiment... c'est comme une manifestation des deux que j'ai vécu dans cette rencontre-là. Puis, j'étais vraiment heureux. Puis, je le souhaitais, en fait, puis depuis le temps, depuis seulement la semaine dernière, ça continue. Il y a des Asiatiques, des Chinois qui soit prennent en photo la porte, se font poser devant ou rentrent dans la galerie pour voir ça. Puis je trouve ça intéressant, le dialogue, l'accident que ça donne.
De voir la réflexion que ça peut peut-être mener, justement, chez ces gens-là aussi, là, pas juste ici.
Oui, exactement. C'est comme si on se retrouvait en Chine puis qu'on voyait une grosse fleur de lys avec « Je me souviens » d'écrit, puis on serait curieux peut-être de voir une exposition d'un artiste chinois sur le Québec ou de son rapport au Québec.
Oui, Martin Muro, merci beaucoup. L'exposition a lieu elle vient tout juste de commencer, donc on a jusqu'au 26 octobre, c'est présenté à la galerie La Serte au 1 Côte d'Inan. Donc, merci beaucoup, Martin.
Merci à vous.
On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Anouk Desloges.
Tous les jours de la semaine, de 13h30 à 15h30, le Cercle vous présente l'émission Nouveau Cru sur les ondes de CKRL. À ne pas manquer en septembre, Human et Mathématiques le 22, We Are Enfants Terribles le 23, Machine Gun Suzy le 24 et dans le cadre d'Envoler Macadam, The Death Set le 29 et Marianne le 30. 228 Saint-Joseph-Est, 418-988-8648, le trait d'union cercle.ca.
Le 20 octobre, de 20h, passez une soirée en compagnie de Larry Carlton Trio à l'Impérial de Québec et découvrez l'élégance mise en musique. Larry Carlton, c'est 4 Grammy Awards et 19 nominations, plus de 20 albums solo et 3000 participations comme Session Man auprès de Johnny Mitchell, Billy Joel et Quincy Jones. Larry Carlton est l'un des plus grands guitaristes de l'histoire du jazz et du blues. pour son trio. Il est accompagné de son fils Travis à la basse et de Gene Coy à la batterie. Spectacle en admission assise avec siège réservé au coût de $59.50. Réservez vos places au 88-523-3131. Les mardis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Jumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. Try it now. Elle est douce et coule bien en bouche. Une explosion d'agrumes qui me monte au cerveau. Elle vient seulement en grand format. Elle me donne des frissons. Avec elle, je deviens chaude.
La nouvelle bière, la CKRL. Une autre façon de déguster votre radio préférée, le 89.1. Cette bière des maîtres brasseurs de la Barberie est seulement disponible à l'accommodation GD. 500, 3e avenue.
Mais vous pouvez aussi la déguster au bar Le Sacrilège et au bal du Lézard.
Cette soirée est une présentation du bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e avenue, 418-529-3829.
Deuxième demi-heure de l'aérospatiale qui s'entame, toujours en compagnie de Julie Gagné à l'animation, de Jacques Gignac à la mise en onde, et on l'attendait depuis début septembre, elle n'était pas disponible, mais elle est avec nous en ce moment, Anouk Beloge, bonjour.
Bonsoir Julie.
Ça va bien?
Ça va super bien, toi?
Ça va très bien, mais parlons de toi un peu avant ta chronique, là, ça roule, là, tes
affaires. Oui, ça roule en petit.
Qu'est-ce qui s'en vient, là? T'as quelques...
Ah oui, on parle de moi, là, je ne m'attendais pas.
On va quand même te parler de ce que tu fais, là, ça va bien?
Je suis heureuse boursière de Relève en Capital, là, qui on a un projet... Relève en Capital, non, excusez-moi, là, je pensais pas parler de moi, du tout. Première Ovation, boursière de Première Ovation, puis Relève en Capital, qui est un événement qui regroupe plusieurs récipiendaires. Il y a plusieurs événements, c'est dans tous les toutes les disciplines, littérature, théâtre, en arts visuels. Puis un événement en décembre qui s'appelle Relève en Capital, j'en fais partie, c'est au Musée national des beaux-arts du Québec. Commissaire Audrey Caro. Super intéressant. On est dans les cabines ou dans les anciennes prisons. C'est vraiment. Il y a moi, il y a José Landry Sirois, Cynthia Dinan-Michel, Olivier, bien sûr. Olivier et Émilie Prou, bien sûr, des amis à moi. Ça avait vraiment là, une belle la belle relève, ça. Ensuite, en janvier, j'étais à Regard, à Lévis. En février, mars, voilà, je ne dirais pas tout ça. Là.
De toute façon,
mon site internet, il est tout écrit.
Puis on va le mettre aussi sur le site de l'aérospatiale.wordpress.com. Okay. Mais là, tu n'es pas là pour parler de toi, bien entendu.
Non,
là.
Je ne m'attendais pas.
Ben non, comme tu nous parles de d'une exposition de Maude Poisson.
Exactement. Maude Poisson, c'est une exposition qui s'appelle Portrait égaré, qui a lieu à la bibliothèque de Neuchâtel, qui une vingtaine de minutes là, à partir de CKRL dans Limoilou, mais ça vaut vraiment le détour. Moi, j'ai adoré, j'ai vraiment super aimé ça. Et puis, alors, je vous explique qu'est-ce qu'on voit en hors-lance. Donc, quand on rentre dans la salle, bien sûr, il y a une dizaine de photos avec des textes. Maude Poisson est une auteure qui écrit premièrement, mais je vous dirais qu'elle flirte avec le milieu des arts visuels. Donc, oui, c'est bien dit. elle flirte. Donc, pour ce projet-là, c'est donc Maud s'inspire de photos qui sont perdues, données ou vendues, qu'elle trouve dans des bazars ou chez l'antiquaire. C'est des photos dont on connaît aucunement l'histoire ni l'identité. Maud, elle ne voulait pas savoir de quoi il s'agissait. C'était vraiment de partir de ces photos-là et de raconter une histoire. Donc, dans l'exposition, pour chaque photo qui a été abandonnée, est reprise, il y a un texte. Les photos y ont été retravaillées par un étudiant en design graphique qui s'appelle, je l'ai écrit, Jean-Christophe. Excusez-moi, on entend même mes feuilles. Jean-Christophe Blanchet, exactement. Voilà. Puis il a vraiment retouché pour mettre les photos, vraiment un aura autour des gens, mais vraiment laisser apparaître ce qui est important, puis le reste un peu, pas nécessairement flou, mais encore on sent la vieillesse de ces photos-là. C'est des photos avec, on sent vraiment comment je dirais ça? C'est vraiment antique, il y a une charge, c'est quasiment de l'archivage de photos. Donc, bon, l'exposition, je vais me lancer. C'est des photos de famille, de femmes, d'hommes, postes sur droite, avec des regards incertains. C'est des enfants qui semblent avoir peur de la photo. C'est des photos aussi que, dans ce temps-là, il n'y avait pas de... C'était pas une époque où est-ce que la photo faisait partie de la culture. Les gens savaient pas, exactement. Hein? Les gens savaient pas comment réagir devant une photo. Les gens, ils sont saisis sur le vif, ou sinon c'est par des professionnels, des photographes, ou sinon c'est saisi par le vif avec un mauvais cadrage, avec une mauvaise attitude. On se comprend,
là, c'est un peu mal. Les photos, qui ont l'air fâchés d'être là, par exemple.
Exactement. Donc, c'est des photos des années 20-30, puis on sent vraiment quelque chose de vrai à travers ces photos-là. Ils ne sont pas nécessairement organisés par un photographe professionnel, mais on a l'impression que les gens ne sont pas nécessairement à l'aise, justement. Puis je crois que c'est Maude, c'est cette vulnérabilité-là, puis cette charge émotive des photos qu'elle reprend et qu'elle travaille avec, qu'elle déconstruit et reconstruit. Donc, on a l'impression d'être voyeur, d'être dans l'instant d'une vie, d'être témoin de leur intimité. Puis l'image, on dirait... C'est des images avec qui elle a redonné une identité, qui sont réinterprétées. Donc, Maude Poisson, qui est auteur et récipiendaire d'une bourse de première ration pour cette exposition-là, c'est au premier plan, c'est une auteure, mais elle s'intéresse à la photo comme, je la cite, aux petits instants qui peuvent être changés, choses que l'on ne peut décrire au moment infime et fondateur de l'existence au cours desquelles les perspectives et les convictions sont ébranlées. Donc, elle parle de petites révolutions, de déconstruction et des certitudes. Donc, elle crée des moments à travers les photos, des photos qu'on semble, qui ne sont pas nécessairement importantes, mais elle va créer des moments, puis elle va nous amener ailleurs, dans l'anonymat de ça. Donc, c'est une écriture très sensible, qui nous partage vraiment bien son émotion. Dans l'exposition, elle dédie l'exposition à son père. C'est vraiment, ça vous donnera le ton là, de l'exposition qu'on lit. À mon père, à ses dernières heures battait l'air autour de lui, de ses bras maigres, comme cherchant à se défaire de tout ce qui s'était cloué à la gorge. Ça donne vraiment le ton, là. C'est vraiment super touchant.
C'est des textes qui sont un peu comme des petites nouvelles ou tout simplement des textes d'observation?
C'est pas des textes d'observation. Ça, c'est clair là, que c'est vraiment pas de la description. Il y a plusieurs, ça peut être des nouvelles, ça peut être aussi comme une prose. Moi, je m'embarque vraiment pas là, dans le littéraire. Je suis vraiment pas une professeure. Je vais vous dire que ça va donner vraiment une idée de ce que c'est. Il y a un texte sur une photo, c'est un homme qui tient ses enfants par le bras. L'homme, il sourit, il a l'air super content. Les enfants, ils regardent ailleurs, ils ont l'air un peu mal à l'aise d'être là. Puis toute l'histoire, ça parle d'un homme qui travaille sur des bateaux puis qui a décidé de ne pas être sur le bateau en ce moment. Il nous amène, puis là, on est ailleurs. On n'est vraiment pas dans la photo. Puis quand on commence à lire, on regarde la photo, on se dit, c'est que je vois ça. Puis là, on retourne. Puis finalement, tout se tient, puis tout, c'est magnifique. C'est vraiment super beau. Je vous lis. Un passage qui parle, ça parle de l'eau, en fait, de lui, sa vie de marin. Donc, je cite, « De l'eau, oui, ouverte, oui, une vraie femme, ouverte, mais vite devenue hystérique, qui fouillait à grandes goulées chacun de leurs orifices, brûlait leurs narines, griffait leurs yeux, grugeait lentement leur intérieur, grattait leur flanc de la dernière parcelle de viande, puis se refermait sur leur corps sans égard comme un drap de plomb. » J'ai l'impression... dans tout ce qu'elle fait, qu'elle nous envoie d'autres images. Puis c'est là que je trouvais que les arts visuels étaient vraiment... C'est tellement chargé d'images. On est complètement ailleurs avec une photo.
Bien, on est dans l'esprit de ces gens-là, finalement.
Exactement.
Plus que dans la représentation. Parce que dans une photo, ça croque un moment, mais à ce moment-là, il y avait des pensées aussi.
Exactement.
C'est parce qu'on arrête jamais de réfléchir.
J'ai l'impression, je vais en venir plus tard, là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est de vivre la photo et c'est de l'interpréter soi-même. Et non, l'image, en fait, c'est comme de... C'est comme si ces images-là n'étaient pas nécessairement décrites, ce n'est pas de la description. C'est vraiment une image qui est réinterprétée. Qui, en fait, à la base, là, on y voit très large. Là, à la base, le photographe l'a vu à travers son œil, que Maude l'a regardé, l'a analysé, écrit un texte. Nous, on le réanalyse. J'ai l'impression qu'il y a une mise en abîme de un et de l'autre et un et de l'autre. Puis c'est quelque chose qui pourrait se faire aussi. C'est la même. Dans, quand on côtoie une œuvre, on la vit d'une manière, et puis on l'interprète, puis on vit quelque chose à travers. Puis Maude Poisson, elle a travaillé avec ces images-là pour leur redonner une vie exactement comme on le fait quand on côtoie une œuvre, mais très, très fort. Tu sais, vraiment, là, aller au bout de ça, puis c'est ce que je trouvais vraiment super intéressant. Puis quand je disais qu'elle flirtait avec les arts visuels, oui, elle écrit, mais elle fait ce qu'on fait quand on regarde une œuvre. Elle le décrit super bien. Donc, ça a été un coup de cœur absolu à Neuchâtel, bibliothèque.
C'est présenté jusqu'au 3 novembre, hein, c'est ça?
Exactement, du 7 octobre au 3 novembre.
Ben, Anouk Desloges, merci beaucoup. On se revoit dans environ un mois. Sinon, on a de tes nouvelles, bien entendu, par le monde des arts visuels. Ton nom sort un peu partout, comme ça, dernièrement. Donc, merci. On s'en va en pause audio. On écoute Gris. Au retour, on discute avec Sébastien Hudon. We'll be right back. On vient d'entendre une pièce qui s'appelle Gris. C'est assez surprenant, mais bon, cela se peut. C'était tiré de l'album Tenco Live de Disconnect de Mixo Live, une suggestion de Simon Roy. Et là, on se projette dans un autre univers encore. Hein? On s'en va vers la Chambre Blanche, la bande vidéo, Avatar, le musée de l'image et du son avec Sébastien Hudon. Directeur de la bande vidéo, qui, directeur artistique, pardon, de la bande vidéo qui vient nous parler de l'installation qui va ouvrir bientôt de Claudio Bueno, Invisible Places. Bonjour Sébastien.
Bonjour, ça va bien?
Oui, tout un préambule, hein?
Oui.
Quand même, mais on a dit beaucoup d'informations en fait pendant ce préambule. Donc, tu viens nous parler de Claudio Bueno et de sa proposition qui s'en vient imminemment.
Oui, en fait, cette semaine, le 13 jeudi, il va y avoir une pré-présentation du projet à la Chambre Blanche et l'ouverture, si on veut, de l'exposition qui fait suite à la résidence de Claudio Bueno ouvre le 20. Donc, c'est ça. Et
c'est un projet, en fait, qui a beaucoup changé. Hein? Là, je l'appelle Invisible Places, mais la forme a changé. Peux-tu nous parler justement de ça?
Ben, en fait, Invisible Places va rester comme appellation parce que l'idée, c'est de faire des monuments qui sont virtuels, qui sont immatériels. Donc, Invisible Places risque de donner lieu à d'autres projets à travers le monde, probablement et très certainement à Sao Paulo, d'où provient Claudio Bueno. Et donc, le projet pour Québec, c'est The Siren Song, qui est lié donc au chant des sirènes et à la location de Québec ou à son emplacement privilégié là, dans le golfe.
Puis aussi à l'histoire de la ville, hein, je pense, parce que c'est lié à l'histoire du port, à l'histoire de la navigation de la prostitution, etc.
Oui, parce que bon, comme ville portuaire, on a eu une longue histoire justement liée à la mer. Et Claudio, en faisant ses recherches, est tombé sur notamment des femmes qui se sont engagées auprès de la marine marchande et a retenu certains noms. Et donc, les sirènes, en quelque sorte, sont une personnification des femmes des marins qui habitaient à Québec et qui sont parties soit pour faire la guerre ou soit pour faire le commerce à l'extérieur. Donc.
Puis, ça dit, The Siren Song, ça veut dire qu'il y a une pièce à écouter. On parlait tout à l'heure d'endroits qui sont plus virtuels. Ça va prendre quelle forme?
En fait, c'est une installation virtuelle, et donc elle va être géolocalisée. Ceux qui ont des iPhones ou qui ont des téléphones intelligents ou simplement des tablettes intelligentes vont pouvoir se rendre sur place. C'est tout près du musée naval de Québec. En fait, c'est sur la pointe, là où vraiment ça va se rétrécir pour laisser entrer les bateaux dans la marina. Et il y a comme un espèce d'endroit circulaire où il y a une sculpture de Raoul Hunter, entre ouais. autres, puis une petite fontaine. Donc, juste derrière un amphithéâtre. Là. Et donc, l'endroit va être marqué avec un GPS et on va pouvoir écouter et voir le résultat de l'installation à partir d'un téléphone intelligent, mais en étant sur place. Donc, il va falloir se rendre sur les lieux pour pouvoir voir le monument invisible. Donc.
Puis la pièce, en fait, qui va être chantée, c'est par deux chanteuses de Québec, Ève-Marie Labrie-Loisel et Émilie Baillargeon. Donc, Claudio Bueno les a recrutées pour cette pièce-là?
Oui, bien, ils ont composé la pièce, mais il y a quatre chanteuses associées. Okay. Donc,
donc, là, on en a deux noms.
C'est ça. C'est ça. Au départ, il voulait quelque chose qui était vraiment inspiré de d'autres chansons aussi. Qui faisait référence aux sirènes et tout. Et donc, c'est une composition originale. C'est vraiment très beau. Je l'ai entendu ce matin.
Mais oui, est-ce qu'on en écoute un extrait en ce moment? On pourrait se donner une
oui,
petite
oui,
idée?
Tout à fait.
On en écoute un extrait. Oh, ça ne semble pas fonctionner. Sinon, c'est pas très grave. Oh, voilà!
Oh.
ça promet d'être assez, assez touchant. Hein? C'est vraiment une complainte, cette pièce-là.
Oui, oui. Puis c'est assez surprenant comme projet. Ben, au départ, ça ne devait pas du tout ressembler à ça. Puis au fil des discussions, ça c'est devenu de plus en plus imposant comme production parce qu'il y a toutes sortes de petits détails vraiment intéressants, comme justement la composition de la pièce puis tout ça. Mais bon, évidemment, là, c'est juste un extrait non travaillé parce qu'il va y avoir avec Avatar qui s'occupe du son, eux vont vraiment s'occuper de donner une texture au son, puis nous à la bande vidéo on va s'occuper plus de la production donc de l'image. Il va y avoir une prise avec les chanteuses, les sirènes, donc un matin bientôt, puis c'est ça, on va pouvoir voir le tout à partir du 20.
Mais avec un pré-lancement le 13 là, pour nous donner quand même une meilleure idée déjà.
C'est ça. Et c'est important de souligner que l'artiste Claudio Bueno a fait un site web, un blog.
Comme un journal hein, de son travail.
Exactement. Puis c'est intéressant parce que là, on rentre vraiment dans le processus créatif. On voit comment l'artiste travaille, comment ça se construit peu à peu avec des photos des intervenants, puis tout ça. Puis on peut entendre déjà la piste audio sur le site, voir des photos, déjà des tests de ce matin et tout.
Des réflexions, les paroles aussi qui ont été traduites. D'ailleurs, je vais donner l'adresse. On le mettra sur le blog de l'émission l'aérospatiale.wordpress.com. Donc, c'est invisibleplaces.tumblr.com. Donc, si vous voulez aller vous mettre à jour, consulter, j'imagine qu'il y a des entrées là, qui se font quand même assez régulièrement, d'après ce que j'ai vu sur ce journal-là. Bien, Sébastien Hudon, merci beaucoup.
Un plaisir.
Donc, l'invitation est lancée. À tout moins jeudi, on peut aller à la Chambre blanche de 17h.
Oui.
Puis sinon, bien, lancement officiel le 20 octobre.
Voilà.
On s'en va en pause audio, on écoute une dernière pièce, Rose. Pièce de l'émission, c'était Rose de Disconnect et Mixo Live tiré de l'album Tenco Live. Si vous êtes intéressé par cet album ou par découvrir des musiques gratuites sur Internet, vous allez sur le site de Clinical Archives, le site russe dont Simon Roy nous parlait en début d'émission. D'ailleurs, c'est déjà la fin de cette émission-ci. Avant de terminer, je vais vous présenter quelques événements qui ont lieu cette semaine. C'est la semaine des vernissages. Vous savez, toutes les expositions ou plusieurs expositions se terminent en même temps. Elles commencent en même temps également. Donc, parmi les vernissages cette semaine, le 13, on l'a dit avec Sébastien Hudon, le 13 à 17h à la Chambre Blanche, une préouverture de la résidence de Claudio Bueno. Également à 19h le 13 aussi, Morgan Bridge nous offre le vernissage de Daniel Véronique Lagacé, exposition qui s'appelle Mercenariat, donc avis aux fans de Lowbrow. Elle dit le 14, donc ce vendredi, série de vernissages, on vous souhaite le don d'ubiquité à 17h à Vue. À Zara, à 19h, à Vue, c'est le lancement de la revue, etc., qui porte sur la nudité. Et à 20h, c'est le vernissage à l'œil de poisson. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Je remercie Jacques Gignac, les invités et les chroniqueurs. Puis je vous laisse l'antenne à Gilles Chaumel avec Folk d'Amérique sur les ondes de CKRL.